Aujourd'hui à l'émission, on discute avec le petit Jérémy, Jérémy Gabriel.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, on approche de la fin de la saison. Un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Ça est une entrevue, long format que je vous propose avec le petit Jérémy, Jérémy Gabriel. On se retrouve tout de suite. Notre invité de ce vendredi 9 juin, et on approche en plus de la fin de la saison, avant le début de la saison estivale de questions d'actualité, où vous pourrez me retrouver tous les jours jusqu'au début septembre. Notre invité de ce 9 juin, c'est donc Jérémy Gabriel, le petit Jérémy. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Donc avec toi, on va discuter de tes actualités récentes, des actualités en fait qui ont fait beaucoup les manchettes ces derniers jours. C'est l'abandon de tes poursuites contre Mike Ward, tu veux passer à autre chose, et aussi un engagement politique qui détonne par rapport à ce qu'on savait de toi avant, donc une évolution politique. On va un peu revenir sur ça pour permettre à nos auditeurs d'en savoir plus. Déjà, Mike Ward, le gros du sujet, tu as décidé d'abandonner tes poursuites au civil contre Mike Ward, pourquoi ?
La première et probablement principale raison, c'est que les procédures judiciaires sont très longues, hein, et ça décourage beaucoup. Moi, on était dans une espèce d'impasse parce que le recours était dans une sorte de débat pour savoir s'il était prescrit ou non. C'est des procédures qui se rajoutent, hein. Ça continue. Puis on sait, pas mal tout le monde le sait, les procédures judiciaires au Québec sont très longues pour plusieurs raisons que je nommerai pas, tout le monde les connaît. Ça rendait les choses beaucoup moins intéressantes, en fait, parce qu'on voit que ça se rallonge tout le temps. Puis je voyais plus, on voit plus, à un moment donné, on ne voit plus le bout du tunnel. Et l'autre raison, c'est que ces poursuites-là au civil n'apportaient pas, je pense, la discussion, que le débat public sur cet enjeu-là, comme autrefois la poursuite qui avait eu lieu avec la Commission des droits de la personne. Et pour moi, c'est important de faire des choses qui vont donner à la société, pas juste à moi. Je pense qu'on n'a pas toujours un gain à faire, à se faire justice. Des fois, quand les procédures sont trop longues, quand elles drainent trop d'énergie, c'est mieux de trouver d'autres voies. Et je pense que j'ai essayé, du moins, de trouver une voie de dialogue avec l'équipe de Mike Ward, parce que le but dans tout ça, c'est pas nécessairement de faire de l'argent, mais c'est bien d'avoir un contact, de faire comprendre la situation dans laquelle il m'a mis enfant et qui a perduré à travers le temps, à travers les années.
Déjà, revenons sur la première chose. Tu parlais de vouloir passer à autre chose, au-delà de l'aspect pécunier. Donc, on peut comprendre que les délais, principalement aussi encore plus allongés après le fait de devoir repasser un peu à la case départ à la suite de l'arrêt de la Cour suprême, c'est juste ces délais qui s'allongent, toutes ces procédures. Ça ne te permet pas un peu de faire le deuil de cette période, car la procédure continue, donc on t'est toujours réimbriqué dans cette procédure, alors que tu te dis au bout d'un moment ça suffit et que tu aimerais passer à autre chose, c'est ça un peu, si
oui,
je comprends bien.
Exactement, c'est qu'on reste un peu, c'est comme si on évolue avec le temps, on change, notre vie change, mais des fois quand on est au cœur de procédures judiciaires, c'est comme si le passé nous ramenait toujours à un moment plat de notre vie, puis ça c'est difficile à vivre. Puis j'aime pas non plus être toujours en confrontation. Le fait d'être en confrontation toujours avec avec quelqu'un, ou des fois on
tu
a
veux du dialogue.
Oui, exactement. Je pense que oui, des fois les poursuites sont nécessaires, mais je pense que des fois quand ça dure trop longtemps, quand ça prend trop d'énergie, et pas aussi les médias ont un rôle là-dedans, ont beaucoup de personnifier ce débat-là.
Ouais.
Le petit Jérémy versus Mike Ward. Je trouve que on simplifie beaucoup les choses. Et c'est très difficile de se sentir toujours en confrontation parce que là, ça, c'est pris non seulement par Mike Ward, mais par une communauté d'humoristes qui décide de dire, ah, ben, Jérémy s'attaque à la liberté d'expression. Et quand on est dans des procédures judiciaires à 18, 19, 20 ans, c'est difficile pour son développement de se dire, coudonc, suis-tu l'antichrist? Est-ce que je suis contre la liberté d'expression? La réponse, c'est non.
On pourra revenir sur ces questions de la liberté d'expression ensuite, mais sur l'autre question, il y avait tu parlais de l'aspect pécunier. Est-ce qu'il y avait un changement du fait que la Cour suprême te demandait de passer par la diffamation au lieu de passer par l'atteinte à tout ce qui était dû dans la décision de la Commission des droits de la personne qui s'est rendue ensuite en Cour suprême? Il y avait un aspect pécunier, le montant que tu pouvais avoir diminué. Est-ce que c'était aussi un élément à prendre en compte? Il y a des gens, par exemple sur Internet, on voyait les gens qui t'attaquaient. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été dur. Sur l'aspect, on dit que le petit Jérémy, il continue pour avoir, il veut pas passer à autre chose, il veut juste du cash. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait du mal dans ta position à toi, qui était en mode, tu voulais apporter un dialogue et un débat sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire comme blague alors qu'on s'attaque à un enfant? Et on pourra revenir sur cette question-là, parce que dans ta défense et dans les éléments que tu as expliqués dans les médias récemment, tu prenais l'exemple, dans la même blague, tu opposais toi, qui était sans défense, qui avait 6 ans, avec Céline Dion et René Charles, qui est attaqué et qui, eux, avaient les moyens de se défendre.
Oui, ben en fait c'est pas mal, c'est un peu ça, c'est très difficile de se sentir attaqué quand les gens pensent qu'on veut faire des coups d'argent. C'est sûr que avoir une poursuite, faire une poursuite, on le fait pour obtenir justice. Puis souvent, puis j'en ai parlé à d'autres gens qui ont eux aussi été dans hauteur de procédures judiciaires, ils le sont parce que ils ont une conviction qu'ils ont été lésés dans leurs droits et ils sont prêts à mettre du temps, de l'énergie, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'argent, des poursuites judiciaires, que ce soit avec l'État comme à la Commission des droits de la personne ou au civil. Il n'y a personne dans la vie qui poursuit pour le plaisir ou juste parce qu'il y a une passe d'argent à faire ça. C'est pas comme ça qu'on pense. Je pense aussi qu'il y a une incompréhension dans la société du système judiciaire.
C'est ça, comment il marche.
Fonctionne.
Parce que c'est aussi beaucoup d'argent.
C'est le cœur de cet argument-là qui est défait par notre incompréhension collective de comment fonctionnent les procédures judiciaires dans leur ensemble.
Est-ce que de l'autre côté, l'incompréhension collective, elle passe aussi sur la qualité des blagues, le style de blague? On voit qu'au niveau, par exemple, de tout ce qui est la caricature, les gens ne comprennent pas qu'il y a peut-être des limites qui sont à poser dans ce genre de caricature. Tu parlais qu'on peut s'attaquer, tu es pour la caricature, mais la question est la protection et le développement des enfants. Il doit y avoir une limite là. C'est là où tu voulais que le dialogue aille, non?
Oui, et c'est exactement ce que je crois que la commission faisait comme travail dans la première poursuite, parce qu'elle mettait vraiment l'accent d'abord, oui, sur l'aspect handicap, mais aussi sur le fait qu'on s'attaquait à un enfant. Et c'est ça le cœur du problème, parce que le petit Jérémy, il a été caricaturé et il s'est fait rire de lui avant l'histoire Mike Ward, et il s'est arrivé après, et il n'y a pas eu de problème. J'ai pas poursuivi toutes les personnes qui ont ri de moi. Il y a d'autres humoristes qui l'ont fait. Il y a Peter McLeod, il y en a d'autres dans les années 2000 qui l'avaient fait, puis il n'y avait pas eu la même problématique. Parce que, premièrement, c'était pas dans des shows.
C'était pas une tournée où ça a été répété plus de 200 fois, par exemple.
Oui, c'est 230 représentations, c'est un DVD, c'est des
vidéos YouTube,
YouTube qui se multiplie sur les réseaux sociaux à une époque où les réseaux sociaux prennent un essor assez ahurissant, notamment chez les jeunes. Puis moi, ben, je suis dans un contexte où j'arrive en secondaire. Et là, ce que le bas blesse, c'est vraiment que oui, je crois qu'on peut rire de tout le monde qui se pointe sur la sphère publique. Mais je pense qu'il y a une distinction à faire quand un enfant devient public. L'enfant qui devient public, que ce soit par sa propre volonté ou non, ne peut pas prendre conscience de tous les impacts que ça peut avoir dans sa vie à l'heure actuelle et plus tard. Et je pense que dans une optique où au Québec et au Canada, où on prend très à cœur la protection des enfants, où on est sur les forums internationaux et on en parle.
On parle souvent de l'intérêt de l'enfant, par exemple, dans toutes les lois qui sont passées en ce moment. Par exemple, l'intérêt de l'enfant est central.
Exactement. L'Union des artistes, c'était un des sujets chauds. La gestion du travail des enfants aussi. Donc, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut, il faut savoir penser à ça.
Mais de l'autre côté...
Je pense qu'on l'oublie.
Mais de l'autre côté, est-ce que la critique... Est-ce que tu n'avais pas peur, par exemple, en mettant en avant qu'on limite un peu trop le travail des humoristes? Parce que si on se met du côté des humoristes, lui, il fait sa blague, il sait que la liberté d'expression, elle n'est pas absolue, on n'est pas aux États-Unis, il y a des limites à la liberté d'expression, mais quand même, elle est quand même assez importante du fait de notre démocratie libérale. Mais le problème, est-ce qu'on se dit, mais moi, j'ai fait la blague, je savais que c'était faux, c'est mon public de l'autre côté qui allait trop loin. Et donc là, c'est aussi une question... que le public aurait dû comprendre, par exemple sur les attaques,
ouais.
Que le public aurait dû être un peu mieux éduqué au fait que c'était une blague et qu'ils ne devraient pas réagir comme ça. Et là, qu'on est juste, en fait, c'est juste la toxicité des gens qu'il ne faut pas s'en prendre peut-être à l'humoriste, mais peut-être à la toxicité de comment les gens ont pensé, ont réagi par rapport à la blague. Tu parlais, par exemple, des réseaux sociaux. À l'époque des réseaux sociaux où ça naissait, où cette blague est sortie, c'était un peu une époque de shitposting, comme diraient les Anglais, sur les réseaux sociaux, où c'était juste des grands gamins non éduqués qui publiaient des choses et qui réagissaient à ça, ils auraient peut-être mieux dû comprendre à cette époque, ces gens-là, que la blague n'était pas vecteur de vérité, c'était juste une blague. Et donc, à partir de là, est-ce que tu n'as pas peur que c'était peut-être c'est un peu trop dangereux d'attaquer l'humoriste alors qu'en fait, le problème vient peut-être des personnes qui reçoivent la blague et qui la prennent trop au sérieux? Qu'ils apprennent trop comme vecteur de vérité.
Non, vraiment, pas du tout. Je pense qu'on est tous et toutes responsables de ce qu'on dit et de la tribune qu'on a. Donc, si ce qu'on dit ou la tribune qu'on a, justement, contribue à détruire ou à s'attaquer à l'intégrité d'un enfant, et si ça cause ça,
la responsabilité.
Je pense que la personne responsable, c'est celle-là qui a dit les propos en premier lieu. Je m'excuse, mais avoir une tribune, c'est pas un droit fondamental, c'est un privilège.
Privilège et responsabilité.
Ça vient avec une responsabilité. Puis c'est ça que je trouve que je pense qu'on oublie, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc je veux dire ce que je veux et pas être tenu responsable de ce que je dis en public devant des millions de personnes.
Ouais.
Et ça, c'est l'envers de la médaille. Il faut savoir aussi faire. Oui, exactement.
Et tu parlais au niveau de ton développement personnel, c'est quelque chose qui t'a beaucoup touché sur de nombreuses années. Prenons l'exemple. Tout d'abord, donc, la blague à la base, tu expliquais récemment que tu ne comprends pas comment il a fait à s'attaquer à toi, alors que dans la même blague, il s'attaque à Grégory Charles et Céline. Eux n'ont rien fait, eux avaient les moyens pour se défendre. Toi, tu étais, comme tu le disais dans une récente interview, dans ton bungalow à Charles, dans la région de Québec, et toi et ta famille, vous ne pouviez pas vous défendre, vous n'avez pas les mêmes capacités de vous défendre que qu'une Céline Dion et une famille Dion auraient pu, et c'est quelque chose qui aurait dû être pris en compte et qui a ta nuit sur ton développement.
Ah mais oui, tout à fait. Et honnêtement, je sais pas quoi rajouter de plus parce que c'est exactement ça. Céline Dion est une artiste internationale dans sa grande maison en Floride. Grégory Charles fait le tour du monde. Ce sont deux personnalités qui ont été attaquées dans le cadre de ce numéro-là.
Ouais.
Et moi, je suis un enfant qui rentre en secondaire 1. Ouais. J'ai 13 ans et j'ai pas toute une équipe autour de moi pour me conseiller. J'ai une vie de jeune aussi de mon âge, malgré la popularité. Et ça, les gens ont eu tendance à l'oublier. Je suis allée à l'école, j'ai eu des jobs étudiantes. Je prenais les transports en commun. J'ai eu une vie très semblable aussi
au
reste des jeunes de mon âge aussi pendant et encore aujourd'hui là. Donc c'est ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que c'est que je suis pas un artiste multimillionnaire qui a fait des millions qui vit dans une grande mansion aux États-Unis.
Ouais.
Je suis en contact avec la société et surtout avec les jeunes, avec les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux et à ce contenu-là. Mais tout ça quand même, c'est quand même le point important. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand même, aujourd'hui, je n'ai plus cette rancœur-là.
Ouais.
Et j'ai jamais voulu non plus créer, en fait, toute la personnalisation du débat qui a eu lieu. J'ai jamais voulu créer ça. Et aujourd'hui, le recul aussi de tout ça, puis je me dis, est-ce que ça aurait pu se faire autrement? Est-ce qu'on aurait pu aller directement vers Mike Ward? Je pense que oui. au début, peut-être. Mes parents ont pris cette décision-là quand j'étais adolescente, puis je subis un peu les conséquences
de décision.
Des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Aujourd'hui, ben oui, le recul me le fait dire, et j'espère qu'un jour
tu pourras parler avec moi.
Je vais avoir cette opportunité-là de lui parler.
C'est ça, c'est tu demandes à lui parler. Pour l'instant, tu n'as pas eu de retour. Est-ce que tu continues de les demander ou maintenant tu te dis, ben, vu qu'il n'y a pas de retour, je vais juste attendre que lui me contacte et là, on organisera de quoi?
Je veux pas courir après lui, le but c'est pas de m'en faire mon plus grand chum là. c'est pas ça l'objectif, c'est que je pense qu'il y a une réconciliation peut-être bonne pour la vie publique de autant de l'un que de l'autre. Je pense que ça peut être bon pour la société aussi de voir que les gens sont capables d'être entrés dans des très grandes batailles, que ça dure plusieurs années, que ça devienne un combat quasiment éternel. Et que là, tout à coup, ces mêmes personnes-là qu'on a vues toujours dans la confrontation sont capables de s'asseoir côte à côte et de s'entendre sur une déclaration ou sur un terrain commun. Je pense que s'il y a quelqu'un avec qui j'aurais pu m'entendre, c'est Mike Ward, parce que je sais que c'est une personne qui a le cœur sur la main. Et j'ai jamais voulu m'attaquer à la personne même. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait non plus. Je me suis jamais attaquée à lui. Mais ça aurait été bien, je crois, qu'il y ait ça. Mais même si ça n'arrive pas maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le futur. Puis je le souhaite quand même pour qu'il y ait une boucle finale à tout ça. Et pour aussi donner un exemple à tous ceux et celles qui peuvent se retrouver dans une situation d'injustice ou dans une situation où ils sont confrontés à quelqu'un, personnalité publique, ou que ça mène à une augmentation, le crescendo, là, où c'est toujours poursuite après poursuite, puis on se lance la balle en faisant les appels, puis personne ne se parle. Puis, je pense qu'il y a un exemple à donner, je crois.
Si ça peut aider.
Cet exemple-là, ça draine beaucoup, ça tourne d'énergie. On n'est pas la même personne quand on sort des poursuites judiciaires. Et je le dis à tous ceux qui penseraient faire ça, pensez-y deux fois.
Dernière petite question sur ce sujet. Tu parlais, donc toi, tu abandonnes ta poursuite, mais si je me souviens bien, ta mère est aussi en poursuite contre Mike Ward. Est-ce que cette dernière va abandonner sa poursuite ou la continuer?
J'ai aucun contrôle sur elle, aucun contrôle sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait.
Ouais.
Mais non, elle n'abandonnera pas parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je suis pas une très très bonne relation.
Je me souviens l'année dernière, je travaillais au journal de Montréal. On avait sorti un article sur un passage dans un balado où tu avais pu expliquer la période de ton coming out. Est-ce que cette relation va mieux à la suite de tout ce qui s'était passé à ce moment-là?
Oui et non. Je dirais que c'est comme un roller coaster, des montagnes russes. Et c'est pas toujours évident. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'essaie de pas trop parler de ça parce que ma mère et moi, on a des visions très différentes de la vie, de la société et tout ça. Ça s'est empiré avec les années, je crois, ces différences-là. Mais j'essaie de garder le lien. Pour toute ma famille, pour les gens de tout le reste de ma famille, rendre les choses les plus agréables possibles dans les grandes réunions.
Et sur la question donc de la carrière, tu parlais comment ça a évolué. On t'a vu beaucoup récemment parler de politique. Tu as été même au congrès du Bloc récemment. J'ai même un de mes amis qui était membre d'un panel du congrès du Bloc et qui t'a vu là-dedans et qui m'a même envoyé un message me disant que ta participation a vraiment été étonnante et surtout vraiment intéressante. Est-ce que la politique, ça t'allume depuis des années? Est-ce que tu te vois un futur politique? Est-ce que, au-delà du militantisme, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu parles vraiment bien et pour avoir fait un peu de politique il y a quelques années, je vois quelqu'un qui communique vraiment bien. Est-ce que tu te vois faire de la politique plus tard? Est-ce que ça te plairait sur un aspect personnel et professionnel? Ou est-ce que plutôt tu sors de l'école, tu sors de journalisme? Est-ce que tu aimerais plus aller vers le journalisme?
Honnêtement, mon grand problème dans la vie, c'est que j'ai tellement d'intérêt que j'ai besoin d'encadrement pour me faire dire bon ben tu fais telle chose et faut beaucoup me conseiller parce que honnêtement choisir
ça foisonne, les idées foisonnent.
Oui, tout à fait. Les gens, des fois, je parle à des plus jeunes que moi, puis ils me disent, ah, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, puis je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Il y a tellement de choses intéressantes et de choses à apprendre que, bon. La politique, oui, ça m'intéresse depuis que je suis enfant, même. Je pense qu'à 8 ans, j'étais capable de nommer tous les chefs de parti politique. Puis j'écoutais les débats, mais je comprenais pas tout, là.
Ouais.
Mais j'écoute tous les débats, je suis tous les chroniqueurs de tous les médias. Je pense que le matin, je lis entre 2 et 4 journaux. Donc c'est ça, j'essaie toujours de me garder au courant.
Ouais.
Et oui, c'est sûr que c'est quelque chose que je trouve passionnant, mais aussi que je trouve qui est clé dans notre société.
Et
je trouve qu'on commence un peu trop à le maîtriser, je crois. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont des bonnes raisons de maîtriser la politique, et je
par rapport au cynisme, ce genre de choses, tout ce qui a été discuté récemment sur plein d'affaires, plein d'histoires, promesses non tenues, les différents discours et tout ça, c'est sûr.
Oui, les promesses non tenues, mais aussi les promesses qu'on ne tient pas, et ensuite on se vote des augmentations salariales.
Je vois ce que tu veux dire.
C'est très ironique dans le contexte du printemps 2023.
Ouais.
Mais oui, un jour, c'est quelque chose que j'aimerais très bien faire, et que je me vois faire aussi. Premièrement, parce que j'ai un très bon contact avec les gens. Je pense que à la minute où je sors de chez moi, les gens
s'adressent
à moi. Oui, tout le temps. Là.
Ouais.
Et ils me parlent de leurs problèmes. Parce qu'ils ont souvent vu que ils connaissent mon histoire, ils connaissent un peu...
Ils pensent que tu peux les comprendre et être à l'écoute.
Oui, et même s'ils me demandent pas toujours de faire quelque chose, ou ils me demandent pas toujours quelque chose en soi, ils me racontent leur histoire, ils me racontent ce qui leur est arrivé.
Mm.
Et ça, ce lien-là qui se crée avec les gens dans la rue, au centre d'achat, à l'épicerie, ben ça c'est très précieux. Et j'ai vraiment eu cette piqûre-là. J'ai été attachée politique en 2019.
Au NPD, si je me souviens bien.
J'ai vraiment adoré ça.
C'était où?
Ça a été une très belle piqûre. C'était au NPD.
Ouais.
À l'époque.
Ouais.
Et vraiment, ça a été. J'ai eu vraiment la piqûre de faire le tour des organismes communautaires,
ouais.
d'aller voir toutes sortes de gens partout et parler de leurs problèmes, mais parler aussi de leurs objectifs, leurs ambitions. Ça, c'est très important. Et j'ai moi-même des ambitions aussi.
Ouais. Pourquoi le passage du NPD au Bloc? C'est quoi qui t'a fait faire ce passage-là du NPD au Bloc? Au-delà de la question, tu es souverainiste, au-delà de la question souverainiste, est-ce qu'il y a des éléments politiques? Est-ce que c'est aussi le fait que le NPD n'a qu'un seul député au Québec? Il y a très peu de viabilité pour le parti, malgré, par exemple, la chute dans les sondages du Parti conservateur, qu'on pense que c'est pour les aider, mais ça se concentre surtout une chute qui est en faveur du Bloc et des libéraux. Est-ce que c'est le manque de viabilité du parti au Québec? Est-ce que c'est le chef? Est-ce que c'est la personnalité des membres au Québec? Tu préfères plus le Bloc, l'écoute que le Bloc peut-être offre au niveau de ses débats et tout ça, la vivacité militante? Est-ce que c'est ce genre de choses qui t'a fait passer?
Ben, c'est pas mal tout ça, en fait.
Ouais.
Tout ce que vous venez de nommer, c'est pas mal tout ça, parce que, oui, la viabilité du parti, ça faisait très longtemps qu'il y avait vraiment un manque. Les filles ne se touchaient plus depuis un bout.
Mmh.
Et pourtant, dans la région de Québec, là, justement, j'ai fait campagne avec le NPD. Et la région de Québec, tous les comtés étaient néo-démocrates en 2011
jusqu'en
2015.
Et le centre-ville de Québec reste QS, donc on peut se le dire. Il pourrait avoir un transfert de vote provincial au fédéral.
Pas du tout. Le présentant de l'NPD est derrière les conservateurs dans la circonscription de Québec. Et je pense qu'il y a une très grande incompréhension des enjeux électoraux propres au Québec. Et surtout sur l'aspect linguistique et sur l'aspect identitaire. Puis au NPD, il y a vraiment cette conception que autrefois, à l'époque de Jack Layton, on proposait un fédéralisme
renouvelé,
mais aussi un fédéralisme asymétrique.
Ouais.
Donc, on voyait les différences entre les provinces, entre les différentes sociétés du Canada. Et aujourd'hui, le NPD est devenu de plus en plus centralisateur.
C'est ça.
Et rendu là, à la limite, il voudrait quasiment abolir les provinces parce que c'est colonial.
Ouais.
Il y a eu une radicalisation du mouvement, il y a une radicalisation
de la base militante.
Ouais. Et c'est devenu vraiment... le dernier congrès auquel j'avais assisté, je pense que c'était en 2020 ou 2021, c'était un congrès virtuel, et ça a été une horreur.
Ouais, une horreur au niveau, par exemple, des idées qui sont présentées, ce genre de choses.
Oui, Oui, ça allait vraiment loin. Et quand on se présentait sur le floor, parce ouais. que je vais vous dire, il y avait très peu de français. Je ouais. pense que 2% de ce que j'ai entendu de tout le congrès était en français. Il fallait dire de quel territoire non cédé autochtone on venait.
Ah oui, d'accord.
Mais moi, je suis pas nécessaire. On ne peut pas dire notre ville ou notre circonscription.
Il fallait dire le territoire autochtone non cédé.
Oui. Et là, ben, moi, je me disais, et là, ben, parce qu'on ne savait pas nécessairement quel territoire tout le temps, ben là, ouais. on était traité de raciste puis de, et ça venait pas mal tout le temps à ça. Et quand le même. Rejet de la laïcité aussi ça au sein joue. De l'équipe québécoise, c'était très, pour moi, c'était inacceptable qu'un parti qui se dit progressiste rejette comme ça la laïcité puis dise que c'est de la xénophobie comme ouais. ça. Et de me faire traiter de ça parce que j'étais le tenant de la laïcité, moi, la religion a eu un impact incommensurable ouais. dans ma vie et la laïcité est devenue pour moi quelque chose de...
Le manque de compréhension, comme d'habitude, ce qu'on entend, le manque de compréhension des anglophones par rapport à la réalité québécoise sur un aspect politique et un aspect sociétal, c'est quelque chose qui t'était lourd, c'est pour ça que tu allais au bloc. Et ça m'amène à la question, woke ou pas woke, sur quelle échelle tu tiens vu tout ce que tu expliques?
Oui, woke ou pas woke, j'aime vraiment pas ce terme-là.
Ce terme-là, oui.
J'aime pas les étiquettes parce que je trouve ouais. que on accole des idées très négatives ou des fois trop positives à certaines étiquettes, puis je trouve que ça ne définit pas quelqu'un. Je pense pas qu'un militant de Québec solidaire ou du NPD soit quelqu'un de woke nécessairement. Je me définis pas dans ces étiquettes-là parce que je trouve que c'est très diminutif, puis ça fait pas avancer la société.
Ouais.
Je comprends que il y a certaines personnes ou certaines idées qui prennent ouais. des tournants trop radicaux. Mais je pense que de s'accoler des étiquettes, ça fait juste nous
diviser encore
plus.
Ouais.
Ouais.
Et sur ma dernière question, avant de se quitter, Jérémy Gabriel, c'est après tout ce qu'on vient de discuter lors de ces 26 dernières minutes, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, que ce soit sur un avenir personnel, professionnel, le dialogue, plus de calme dans la société qui permettront, par exemple, à toutes ces idées extrêmement importantes de protection de l'intérêt de l'enfant, ce genre de choses. Si tu as pu participer à ça en bien, est-ce que ça doit être retenu? Est-ce que ça serait retenu et ça serait important?
Oui, ben ce qui doit être retenu, c'est surtout ce que j'ai eu à dire sur la protection des enfants dans la société. Et si un jour je fais campagne au fédéral ou au provincial, c'est sûr que ça va faire partie de mes principaux ouais. engagements. J'attends d'avoir des idées plus précises. J'ai déjà quelques sujets qui m'interpellent davantage et dont je lis absolument ouais. tout sur ça. Et si on me souhaitait quelque chose, c'est que je garde cette force-là que j'ai eue pendant des années, que je la garde encore pour que je puisse continuer dans cette direction-là pour que tous les efforts que j'ai faits pour justice envers moi, mais que je sois capable de la
de
faire
la donner aux autres.
Pour les autres, oui.
Merci beaucoup, Jérémy Gabriel, d'avoir répondu aux questions de Radio VM ce midi. C'est un plaisir de pouvoir parler avec toi. Tu reviens quand tu veux.
Ça fait très grand plaisir. Merci
à toi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona micro, Daniel Forta à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, bonne fin de semaine aux antennes de Radio VM.